9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, camarades auditrices et auditeurs. Maître Cern est ravi d'être parmi vous et je vous déclare, de pauvres les guillemets, je vous ai compris. Alors désormais, mon cher Philippe, pour donner plus de piment à mon excellente chronique,
oui.
Je citerai à chaque fois un personnage historique ou pas. Et la première auditrice qui aura reconnu mon personnage se verra invitée à déjeuner avec vous, mon cher Philippe. Eh oui, si elle est moche, et avec moi. Si elle ne l'est pas. Mais laissons ce bel hommage à nos futures gagnantes et évoquons une actualité encore bien remplie cette semaine. Et tout d'abord, devinette. Qui a prononcé cette phrase? Maintenant, je sais que je suis majoritairement français dans mes valeurs et dans ma façon de penser. Ça aurait pu être Karim Benzema, mais c'est pas lui. J'ai déjà parlé de notre ami Karim la semaine dernière. Non, c'est le retour de... Ah, et si je vous dis, j'ai pu accéder aux plus hautes fonctions de l'État alors que je suis né espagnol, que je suis français depuis 1982, je suis...
Bip!
Eh oui. Manuel Valls. Et oui, vous vous souvenez de Manuel Valls? Alors pour les plus jeunes, il faut rappeler que Manuel Valls fut le ministre de l'Intérieur sous Hollande. Vous vous souvenez de Hollande? C'est celui qui est le mec de Julie Gayet. Et quand t'es le ministre de Hollande, t'es censé en principe être de gauche, mais Manuel était plutôt à la droite de la gauche. Consécration suprême, il fut premier ministre de Hollande. Et quand t'es le premier ministre, tu incarnes quand même en quelque sorte la France. D'ailleurs, c'est en tant que Premier ministre qu'il avait, à propos, tiens, on revient vers Karim Benzema, il avait dit à propos de Karim Benzema, un grand sportif doit être exemplaire, s'il ne l'est pas, il n'a pas sa place en équipe de France. Vous savez, cette histoire balourde avec Valbuena, et puis Benzema avait indiqué qu'il était algérien de cœur. Et pour les puristes, comme Valls, si tu veux jouer pour la France, tu dois renier la race de tes parents, chanter la Marseillaise. Le donneur de leçons à l'époque, Valls, pensait être plus français que Charlemagne lui-même. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que Manuel, après avoir été boudé par les électeurs français, a fait ce que chaque professionnel de la politique pratique avec le plus grand art. Il a retourné sa veste et puis il a déféqué sur la France, s'est senti majoritairement espagnol à ce moment-là, au point de faire de la politique en Espagne. C'est comme si Benzema jouait à la fois pour l'équipe nationale algérienne et pour l'équipe nationale française. Il a voulu devenir maire de Barcelone. Il ne devint que simple conseiller municipal épinglé. D'ailleurs, récemment, par l'équivalent de la Cour des comptes espagnole pour ses comptes de campagne, il a donc à nouveau été touché, faut croire, par la grâce, et se sent aujourd'hui plus français qu'espagnol, au point de démissionner de ses fonctions en Espagne. Sauf que quand t'es un grand homme politique, tu dois être exemplaire. Et si tu n'es pas exemplaire, tu n'as pas de place parmi nos politiques. Alors, qui de Manuel Valls ou de Karim Benzema est un bon français? Vous méditerez sur ça, mais auparavant, appelez le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle del señor Felipe Robichon. À vous, maestro.
Maître Cern, alors effectivement, c'est gentil de nous rappeler Valls.
Bah oui, ouais. Mais c'est fou quand même, non?
C'est difficile de commencer la journée avec lui.
Ouais, je vous le confirme.
Est-ce que vous pensez que vous allez nous miner le moral, Maître Cern?
Bah là oui, là c'est pour le week-end de toute manière.
Ah oui, là c'était.
Oui, là le week-end est mort. Si on parle de Valls dès le vendredi, c'est que le week-end est fichu, les amis.
Je crois qu'il fait des appels du pied à Macron en ce moment.
Oh, je sais pas ce qu'il fait, mais on est dans le domaine du pitoyable.
Il
mais
dit qu'il est disponible pour aider au cas
oui,
où.
Oui, ouais, mais c'est ce qu'il avait dit aussi aux politiques espagnols quand il a fui la France et a demandé l'exil à l'Espagne. Et puis maintenant, il fuit l'Espagne et demande l'exil à nouveau à la France.
Bien, Maître Cern, suite au féminicide d'Ayange, nous allons faire un point sur la législation concernant les violences qui sont faites aux femmes. Comment est-ce qu'on les définit, ces violences?
Alors, ce qu'on appelle le terme générique, les violences intrafamiliales. Et ces violences intrafamiliales, alors on en parle évidemment avec ces faits divers monstrueux. Et on a l'impression, en fait, que ça s'est multiplié, puisque c'est quasi quotidien, sauf qu'en vérité, c'est malheureux à dire, mais... au moment où on se parle, on a encore des femmes qui se font tabasser ou qui meurent, mais on n'en parle pas forcément. Donc là, évidemment, ça a été mis en lumière. Mais ce qui est important, c'est qu'à la suite, évidemment, de ces faits divers, j'aime pas le terme, mais de ces faits tragiques, on a une montée au créneau, alors soit de politique, soit d'association, pour nous dire que la législation est ou serait trop souple, que les tribunaux seraient trop laxistes à l'égard donc des auteurs de ces faits.
Enfin, sauf que là, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est de savoir si la procédure a été respectée à la lettre.
Mais c'est alors donc, évidemment, j'allais dire après coup, puisque notamment le dernier fait là, cette demoiselle de 21 ans qui s'est faite poignarder par monsieur, on nous a indiqué donc qu'elle avait déposé plainte et que
qu'elle avait déposé une main courante,
voilà, et que des suites n'avaient pas été données. Alors oui, c'est même pas une plainte, c'est une main courante
qui n'avait pas été transmise au parquet.
Voilà, sauf donc, que la main courante, en règle générale, d'abord, elle n'est pas transmise au parquet. À titre exceptionnel, quand il s'agit d'une main courante qui concerne des violences conjugales. Alors, quand on dit violence conjugale, ça peut être le mari, ça peut être l'ex, ça peut être les personnes paxées, ça peut être le concubin. Voilà, hein, c'est le terme générique pour violence conjugale. Et il semblerait qu'effectivement, que le commissariat n'ait pas transmis cette main courante au procureur de la République. Alors, évidemment, bien sûr qu'il peut y avoir des dysfonctionnements de cette nature, mais c'est quand même important, et je parle pas en qualité de représentant ni de l'institution judiciaire ni du gouvernement, mais c'est important quand même de souligner, pour ceux qui ont l'expérience en la matière, bon, ça fait quelques années que j'officie, je peux vous assurer que il y a quelques temps, lorsque vous invitiez votre cliente, lorsque vous invitiez madame à se rendre au commissariat pour déposer
la main courante,
ou une main courante, alors pour violence, parfois même pour viol, puisque je le rappelle que quand bien même vous seriez marié, il faut le consentement évidemment de votre épouse. Les commissariats n'étaient pas dans ce réflexe de prendre ça avec sérieux. C'est-à-dire qu'on considérait qu'à partir du moment où vous êtes la concubine, ou vous êtes l'ex, ou alors vous êtes l'épouse, bah de quoi en gros vous vous plaignez. Et c'est vrai qu'il y avait cette habitude des commissariats qui renvoyaient un peu comme ça vite fait la personne, ou alors quand vous aviez une grande chance, au lieu de prendre une plainte, on prenait une main courante. Et je le redis, la plainte et la main courante n'ont pas les mêmes conséquences juridiques. Une main courante, encore une fois, c'est une déclaration que vous faites, et dans 99% des cas, le procureur de la République n'en sera jamais informé, donc il y aura jamais de suite. Mais il est bon quand même de rappeler, en dehors de ces cas tragiques pour les victimes et pour les familles des victimes, que depuis maintenant quelques années, l'institution judiciaire donc a quand même réagi à toutes ces violences, et il n'est pas comme dirait l'autre, rare que les procureurs de la République, et en particulier sur Bobigny. Il faut savoir que Bobigny, le tribunal judiciaire de Bobigny,
a été pionnier.
Ouais, complètement, a été en pointe là-dedans, et Bobigny donc s'est organisé parfaitement, alors tant au niveau du procureur de la République, au niveau du parquet, qu'avec l'aide des avocats, donc de l'ordre des avocats, que Bobigny s'est organisé donc pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors parmi toutes les mesures qui existent, mais qu'on va évoquer, mais il faut quand même, en dehors de ces mesures, il faut quand même se dire, même si le pas est difficile à franchir, que si madame, ou que si l'entourage de madame, donc des amis proches ou des membres de la famille proche, ne vont pas se manifester auprès du procureur de la République ou auprès du commissariat, eh ben ce sera évidemment donc une personne qui sera encore une fois molestée, qui sera violentée, mais ça va rester dans le cadre du domicile. Donc il faut au moins essayer, même si c'est pas simple, de sortir de là. Et en dehors du fait d'aller au commissariat, vous savez, il y a des personnes qui appellent aussi les pompiers, qui appellent le SAMU, donc, et ce sont ces services là qui peuvent ensuite d'abord vous conseiller et transmettre vos plaintes au procureur de la République. Donc on a, et ça on l'a déjà évoqué dans le cadre de l'émission, ce qu'on appelle l'ordonnance de protection. C'est-à-dire que si monsieur fait preuve de violence, qu'il s'agisse de violence physique, de violence morale, s'il s'agit de harcèlement, pareil, harcèlement moral, harcèlement sexuel, vous avez la possibilité de demander au tribunal de rendre une ordonnance de protection. C'est un juge qui est le juge aux affaires familiales, donc qui rendra cette décision, et c'est une mesure qui est importante, puisqu'elle va interdire à monsieur de vous approcher. Alors, on a l'impression que c'est assez simple comme ça, mais vous voyez, moi, j'ai reçu une cliente il n'y a pas si longtemps qui a sollicité une ordonnance de protection et ça lui a été refusé. C'est-à-dire que il s'agit pas non plus juste de dire monsieur est ou serait violent pour que le magistrat vous accueille à bras ouverts pour dire écoutez, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut quand même démontrer cet aspect-là. Donc, les ordonnances de protection, c'est une bonne chose, mais les magistrats, derrière, ne les accordent pas non plus facilement. Je peux l'entendre et le comprendre. Et lorsque le magistrat l'accorde, il peut assortir cette ordonnance de protection d'un bracelet, comme on dit, anti-rapprochement. Ça signifie que lorsque l'intéressé va se rapprocher d'une certaine distance de madame, eh ben ça bip. Et puis quand ça bip, on a la police qui peut éventuellement intervenir. Merci. Vous venez de tousser fortement.
C'est vrai ?
Ouais. Non, mais c'est pas...
En votre direction, maintenant.
En ma direction, en plus. C'est... Non, mais en plus, c'est vrai, c'est fou. C'est-à-dire que vous avez pu tourner la tête de l'autre côté, mais non, vers moi. Voilà.
Je vous ai visé, mais
c'est... Je sais bien, c'est volontaire. Donc, il y a cette mesure, donc, qui est l'ordonnance de protection. Il faut savoir aussi que... il faut savoir aussi... que les tribunaux, alors là on est en train de parler de l'aspect civil de la chose, mais le tribunal correctionnel est saisi évidemment et heureusement de ces violences faites aux femmes, mais il arrive assez souvent, alors ça c'est terrible et on a toujours du mal à essayer de le comprendre, c'est-à-dire que vous arrivez devant le tribunal et lorsque le magistrat ou même le procureur de la République pose la question à madame en disant mais vous voulez vous séparer de monsieur ou qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'est pas rare que madame dise « je veux retirer ma plainte ». C'est-à-dire que la crainte étant de dire « écoutez, je vais retirer ma plainte, je voulais que ce soit juste un avertissement ». Et la crainte de ces femmes violentées, et elles le disent parfois à l'avocat, c'est de dire « mais moi je veux pas qu'il aille en prison ». Et en particulier quand on a des enfants communs, puisque le raisonnement étant de dire « mais mon fils, ma fille va dire « oui mais maman c'est à cause de toi que papa part en prison ». Mais ce raisonnement existe même lorsqu'il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire que très souvent, la victime dit « je veux que ce soit, entre guillemets, un avertissement, mais qu'on n'aille pas plus loin ». Et il arrive que des femmes retirent leur plainte. Alors, il faut savoir que le droit est quand même bien fait. C'est-à-dire que même si vous retirez votre plainte, c'est l'État, à travers le procureur de la République, qui, lui, va quand même continuer à vous poursuivre, à poursuivre l'auteur des faits. La seule différence, c'est que si vous avez retiré votre plainte, la pauvre victime ne pourra pas demander des dommages et intérêts. Alors, j'ai bien compris qu'elle n'était pas là pour ça, mais l'État peut quand même continuer à vous poursuivre. Et ça, alors, au début, sincèrement, lorsque j'ai commencé comme avocat, j'avais du mal à comprendre en disant, mais je comprends pas. C'est-à-dire que madame fait des pieds et des mains, elle a reçu des coups, elle a été violentée, vous arrivez devant le tribunal et on vous dit, parfois avant même l'audience, maître, est-ce que je peux retirer ma plainte ? On a du mal à comprendre ça. Mais c'est vrai que cet aspect psychologique, cette fragilité psychologique fait que, encore une fois, le droit est bien fait, que le droit ne tient pas compte du retrait de la plainte et c'est l'État, dans ce cas-là, qui continuera de poursuivre l'intéressé, de poursuivre la personne violente à l'égard de madame, à l'égard de son épouse, de sa concubine, de son ex.
Bien, il y avait des téléphones aujourd'hui qui avaient été faits.
Alors les téléphones
qui avaient été testés dans le 93 alors, aussi.
Ils sont toujours d'actualité. La difficulté, mais c'est toujours le cas en la matière, c'est l'aspect matériel. C'est-à-dire que il y a quelques téléphones, mais il n'y a pas suffisamment de téléphones évidemment pour tout le monde.
Ça n'a pas été généralisé comme.
Non. Comme... Alors c'est pas que ça n'a pas été généralisé, c'est que comme dit Holt, le c'est en principe généralisé, sauf que matériellement et même sur Bobigny, on sait qu'il n'y a pas suffisamment de téléphones à pouvoir remettre à ces victimes-là. Donc, encore une fois, le cadre juridique, il est présent, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les magistrats, maintenant, sont quand même un peu plus répressifs. Mais ce qui m'a ennuyé, c'est que on demandait, vous savez, c'est comme les violences faites aux policiers, on demandait une sorte de peine planchée, c'est-à-dire sans tenir compte ni du contexte, ni de l'histoire. Et ça, c'est difficile, puisque c'est retirer quand même un pouvoir au magistrat. Il ne faut pas oublier qu'un magistrat, quand il rend une décision, quand il est amené à sanctionner, il le fait en fonction d'un contexte, il le fait aussi en fonction de l'intéressé. C'est ce qu'on appelle la personnalisation des peines. Il ne peut pas y avoir des sanctions comme ça automatiques. On pourrait le comprendre. C'est-à-dire comme ça, spontanément, on pourrait se dire, à partir du moment où il y a eu tel comportement, ça va être telle sanction et puis ce sera peut-être dissuasif. C'est pas ça le droit. Le droit, c'est aussi faire en sorte de prendre en considération l'histoire, évidemment, de la victime, mais l'histoire aussi de celui qui est auteur des faits. Et il y a une sorte de guéguerre comme ça entre les associations et je vous dis, c'est le même raisonnement avec les policiers, c'est-à-dire que le magistrat, en toute indépendance, c'est à lui de faire en sorte que la peine soit totalement personnalisée pour qu'elle puisse éventuellement convenir aux uns et aux autres. Mais par définition, lorsque vous avez été victime, vous n'êtes jamais satisfait de la sanction. Mais ça, on peut l'entendre, on peut le comprendre. C'est juste la nature humaine. Mais notre société, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctionner et mettre une peine automatique, quelle que soit l'infraction. Et heureusement. Et puis sinon, tout simplement, il n'y aurait plus besoin de celui qui est en train d'officier aujourd'hui devant vous, des avocats, si les peines étaient automatiques.
Bien, 01 53 48 3000, si vous avez une question juridique à poser à Maître Serran, vous pourrez le faire dans un instant en direct, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est le moyen aussi de poser vos questions à Maître Serran en direct. Hein. Profitez de sa présence à la radio le vendredi si vous avez du mal à le joindre, parce que Maître Serran est très sollicité. 01 53 48 3000. Alors nous avons Nordine qui est avec nous, Maître Serran. Nordine, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Nordine.
Bonjour Nordine.
Ça va ?
Ça va, alhamdoulilah, et vous-même ?
Alhamdoulilah, ça va, ça va. J'ai besoin juste un petit renseignement, s'il vous plaît.
Bien sûr, on vous écoute, donc, Nordine.
J'ai besoin d'un rendez-vous personnel entre nous. J'ai, pour rapport à la paperasse, la nationalité française, comment ça s'appelle, la reconnaissance de mon père.
Oui.
Je te raconte un petit peu comme ça à la radio, mais moi j'ai besoin directement, parce que je ne parle pas bien français. J'ai dit, je prends un rendez-vous, on va parler tête à tête, si possible.
Ah! Bah, on peut. L'histoire,
comment ça se passe? J'ai mon père, il est décédé, ça fait 40 ans, le 25 novembre passé, avec le Covid 2019. Donc, il a fait nationalité 1964 ici en France. Et il est venu en 1964, il a trouvé quelqu'un de la famille, il a demandé pour effet la nationalité 1964. Lui, il ne parle pas français, il est parti avec lui pour juste lui expliquer l'affaire comme ça. Et après, il a fait la nationalité, il a demandé la nationalité, mais il n'a rien donné, il n'a pas pris la nationalité, lui. Il a demandé 1964 nationalité française. Mais mon père, il n'a pas pris, il a pris un rendez-vous pour ça, mais après, mon père, il n'est pas parti pour reprendre. Moins que ça, il est parti près de la nationalité française. Mon père, il n'a pas pris. Maintenant, mon père, il est décédé le 26 novembre, il n'est pas passé là. J'ai envoyé les archives de Parfait. Il m'a donné tout le renseignement. Il m'a dit, il faut que tu demandes le résidé à... Comment s'appelle le notaire comment s'appelle le notaire.
Oui.
Voilà. J'ai envoyé un mail là-bas et tout, la lettre recommandée. Il ne m'a pas répondu jusqu'à maintenant. J'ai besoin pour juste... Est-ce qu'il a droit à quelque chose ou pas
pour... Oh, alors là, comme ça, monsieur, ce serait pas sérieux de ma part de vous dire est-ce qu'il a le droit à quelque chose ou pas. Ouais, vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que c'est aussi en fonction des éléments qu'il a pu avoir ou qu'il a pu présenter. Il faut savoir que dans l'hypothèse, si votre papa pouvait bénéficier de la nationalité française, même s'il est décédé, vous avez, vous, la possibilité, en tout cas, voilà, les enfants de l'intéressé dont vous êtes, vous avez la possibilité de demander à pouvoir bénéficier de cette nationalité française si, évidemment, encore une fois, si l'État français reconnaît que votre papa était bien de nationalité française. Le fait qu'il soit décédé ne vous interdit pas de continuer, vous, la procédure en votre nom ou pour vos enfants. Donc ça, c'est possible. Mais là, comme ça, vous dire il a le droit ou il n'a pas le droit, ce serait pas sérieux de vous répondre à la légère, comme dirait l'autre, sans documents, sans pièces, sans connaître parfaitement l'histoire de votre père. Mais je peux au moins répondre à cette question. Quand bien même il serait décédé, si il bénéficiait de cette nationalité française, elle vous sera remise à partir du moment où vous en faites la demande et à partir du moment où vous engagez vous aussi la procédure.
Ok, donc par rapport, je peux prendre rendez-vous avec vous.
Ouais, alors on peut se téléphoner tout à l'heure après l'émission. Vous avez mon numéro?
Moi, j'ai juste le numéro de téléphone de la radio. J'ai pas votre numéro.
D'accord. Vous avez de quoi noter?
Alors c'est bien comme ça, oui, tout le monde pourra le noter. Voilà. Hein, donc c'est bien ça.
Okay, merci beaucoup.
Alors 06 62 58 59
64.
Voilà, 06 62 58, 59, 64.
64. Merci beaucoup. Comme ça, on se ramène de la paperasse des papiers. Explique-moi comment je fais.
Voilà. Eh ben, on regardera ça tout à l'heure, Inch'Allah, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, désolé.
Merci, Nandine.
Je ne parle pas bien français.
Non, mais allez, Nandine, on a tout compris, il n'y a pas de problème.
Ok, alhamdoulilah. Assalamu alaikum.
Salama.
Merci, Nandine. Alors, nous avons Sonia au 01 53 48 3000. Sonia.
Oui, bonjour maître.
C'est bonjour Sonia.
Oui. Désolée maître de vous rappeler, j'ai un petit souci avec le fils Hachalem, s'il vous plaît.
Oui.
Alors, j'ai un mari qui est handicapé à 80%.
Oui. Ah,
je suis en règle avec eux, j'ai jamais eu un retard, j'ai jamais eu une lettre de relance.
Oui.
Et ça fait depuis 2015 que je demande le changement de l'appart, il n'y a personne qui bouge. Et voilà.
Alors, le changement, c'est, j'imagine, par rapport au handicap de monsieur?
Oui, s'il vous plaît.
D'accord.
Parce que c'est petit, c'est un petit F2. Et comme moi, je travaille et tout, lui, il s'occupe de la chambre. Après, on n'a que le salon, c'est un peu compliqué maintenant.
D'accord. Et bon, j'imagine qu'on vous demande de renouveler votre demande tous les ans?
Ah, je renouvelle toutes les ans, je suis à jour avec eux, je suis en règle avec eux, j'ai pas de soucis. Mais par contre, l'île de France, ça n'a pas fait avec les systèmes, malheureusement.
Oui, alors ça, on l'entend souvent, mais c'est vrai que, vaut mieux éviter, quand vous êtes avec ces personnes-là, de dire, écoutez, si j'avais été pistonné, j'aurais eu un appartement, parce qu'ils le prennent mal, par définition, normalement.
Non, je parle à vous, maître.
Ah oui, non, mais on est d'accord, mais quand vous dites le piston, oui, mais bon, ça, c'est malheureusement dans tous les domaines. Après, il n'y a pas beaucoup d'options, madame, c'est-à-dire que, d'abord, est-ce qu'on vous explique pourquoi est-ce qu'on vous donne pas satisfaction, on revient vers vous, on vous demande quoi, de patienter encore un peu, ou alors il y a 0 réponse?
Non, ils m'ont proposé une.
Oui.
Pratiquement à 1000 euros, et ça m'intéresse pas. Il y a 200 mètres de jardin. Moi, je suis pas intéressée avec le jardin. Je suis intéressée d'avoir une chambre de plus.
Et dans ce qu'on vous a proposé, en dehors du jardin, il y avait quand même une chambre de plus ou pas?
C'est grand, oui, c'est grand.
Ouais,
c'est
bon, après, c'est l'histoire du loyer.
Oui.
C'est beaucoup plus élevé que ce que vous payez actuellement?
Oui, c'est plus élevé.
Ouais.
Là, il y a une appart qui est en train de s'élever en face de chez moi. Et voilà, j'ai tenté d'appeler, ça répond pas, hein, c'est le Covid, machin,
Ouais, enfin bon, croyez-moi qu'indépendamment du Covid, ça souvent on l'entend, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous disent mais je vois bien qu'il y a tel ou tel appartement qui serait disponible, et puis quand vous appelez les services HLM, alors soit on vous répond pas.
Maître, on a le droit de renouveler la demande combien de fois?
Ah non, mais la demande, madame, peut être faite une fois par an. Donc ça, vous pouvez le faire. Et en plus, faut le faire tous les ans. Hein.
Oui, non, c'est fait tous les ans.
Ouais, voilà. Voilà, donc faut le faire tous les ans. Donc il n'y a pas de limite, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils puissent vous donner satisfaction. Maintenant, en vérité, il n'y a pas de moyen de pression, si je peux utiliser ce terme-là, pour forcer la main au service HLM et vous donner un logement. C'est-à-dire qu'en règle générale, ils se cachent derrière quoi? Alors de bonne ou de mauvaise foi, c'est dire que on a des listes d'attente pas possibles, et puis il y a en principe des personnes qui sont ou qui seraient prioritaires. Donc, mais ce sont la manière dont c'est fait, c'est assez flou. Vous voyez, il y a vraiment rien de transparent. On a du mal à comprendre parfois comment un appartement est attribué à X ou à Y. Et comme vous dites, des fois, vous avez des personnes qui se manifestent à la dernière seconde et elles obtiennent un appartement rapidement. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ça. Mais il n'y a pas de technique juridique pour leur forcer la main. Alors, vous pouvez éventuellement, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Dalo, si vous êtes considéré comme prioritaire Obtenir une décision de justice et même la décision d'un tribunal administratif qui dit que Madame X est prioritaire et donc qu'on invite l'administration, donc la préfecture, la mairie, à trouver un appartement. Mais on a beaucoup de dossiers de cette nature où j'ai des clients qui ont des belles décisions de justice qui obligent l'administration à vous remettre un appartement, qui condamnent l'administration à payer une somme d'argent tous les mois tant que l'appartement n'est pas accordé. Pour autant, je ne crois pas que ce genre de décision a eu des conséquences extraordinaires. Je ne vais pas dire que les services HLM s'en foutent, mais ça y ressemble un peu, madame. C'est toute la difficulté. Le cadre juridique, la loi existe, la loi est bien faite, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ouais. Mais vous pouvez avoir une très belle décision, et puis l'administration va se cacher derrière l'unique argument, à savoir de dire, pour l'instant, on n'a pas de logement disponible. Et à partir de là, une fois que vous avez obtenu cette belle décision, à part patienter, il n'y a rien d'autre à faire, malheureusement.
Ça fait depuis 2015 que ouais. Chaque année, j'ai jamais eu un retard avec eux, j'ai jamais eu un souci. Le mari, il est handicapé à 80%. Quand il y a la flotte, ça rentre jusqu'au salon. Le plafond, il est en train de...
Madame, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'un appartement classique, alors peut-être trop petit, je l'entends, je le comprends. Maintenant, si à chaque fois qu'il pleut, il y a le plafond qui s'écroule, là, vous avez des possibilités, évidemment, d'engager des procédures. Il faut savoir que la contrepartie de payer un loyer, c'est de pouvoir vivre dans son appartement, l'expression consacrée, et dire de jouir en bon père de famille, c'est-à-dire d'y vivre correctement et tranquillement. Mais si vous me dites qu'à chaque fois qu'il flotte, ça coule, dans ce cas-là, vous pouvez... c'est évidemment pas normal, mais dans ce cas-là, c'est... Alors, en dehors de la procédure pour les obliger à demander un appartement, vous avez quand même la possibilité de dire, moi, je paye un loyer, donc j'ai le droit à ma tranquillité, et dans ce cas-là, d'engager leur responsabilité. Alors, c'est une procédure, ça peut être chiant, ça peut être long, mais faut le faire, parce que si vous payez votre loyer sans difficulté et que quand il pleut, ça coule sur votre tête et vous faites rien, ils vont pas spontanément bouger ou vous aider. Donc si c'est le cas, il faut d'abord le faire constater. Alors vous pouvez le faire constater par un gardien, si un gardien d'immeuble, ou par un huissier de justice, ce sera encore mieux. Et vous avez le droit, madame, évidemment, d'engager une procédure et de demander des dommages et intérêts. Alors, j'ai bien compris que vous appelez pas pour ça, mais c'est pas anodin, il faut quand même le faire. Et c'est peut-être ça qui vous permettra aussi d'accélérer cette procédure d'attribution d'appartement. Donc, okay. Il faut pas se contenter de dire, bon, il pleut, ça coule, et puis tant pis, c'est pas grave. Faut pas laisser passer ça.
Non. C'est vous se l'occupez de ces dossiers comme ça?
Le cabinet s'occupe de ça aussi, il n'y a pas de difficulté, bien sûr.
D'accord, je peux avoir votre téléphone maître, s'il vous plaît?
Oui, vous avez de quoi noter?
Oui, s'il vous plaît.
06 et 62.
06 62.
58.
58.
59.
59.
64.
64. Et ça prend combien de temps?
Ce sont, madame, des procédures qui sont malheureusement longues, c'est-à-dire que, alors je vais vous donner un délai, mais ne tombez pas de votre chaise si vous êtes sur une chaise, mais quand ça va vite, ça peut prendre un an et demi, hein.
Là, depuis 2015.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors on peut, relativiser par rapport aux toutes premières demandes, mais, ça reste des procédures qui sont longues quand même.
D'accord. Ok, maître. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous, Laïa. Merci,
Sonia.
Au revoir.
Voilà, vous pouvez appeler maître Serran sur son téléphone portable, mais bien sûr, après l'émission, pendant l'émission, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez. C'est le numéro du standard de Beurre FM pour poser toutes vos questions juridiques à maître Serran. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran qui est avec nous tous les vendredis, Maître Serran qui s'est remis à la gym.
À la gymnastique, oui. Ouais, oui. Donc j'expliquais que quand j'étais un peu plus jeune, j'arrivais à faire le grand écart. Quel est l'intérêt de dire ça? Strictement aucun, puisqu'aujourd'hui, j'y arriverai plus.
Mais en quel point? Vous étiez partez debout ou
les deux?
Les deux.
Ah ouais.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Latéral, facial, bah ouais, l'âge, et puis on est moins souple. Et puis bon.
Mais c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça, Maître Serran.
Ah bah c'est un peu douloureux, là, quand même. C'est-à-dire que là, on pourrait me péter un truc si on force.
Bon. Ouais. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on va essayer. On fera une vidéo.
Bah, c'est pas certain. Hein? Non, mais quand on n'y arrive pas bien, c'est pas élégant.
C'est un petit peu. Voilà, il faut s'y remettre.
Ouais. Bah, je sais faire le poirier, je sais faire l'équilibre, mais c'est tout. Voilà.
c'est beaucoup moins joli, Maître Serran.
D'accord.
Alors, Latifa est avec nous. Latifa, bienvenue.
Allô?
Bonjour, Latifa.
Oui, bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Latifa.
Voilà, Maître Serran, j'ai une petite question pour vous, s'il vous plaît.
Oui.
Voilà, moi, je suis reconnue, j'ai fait un dossier complet concernant mon logement. J'ai été reconnue en état d'insalubrité. Enfin, j'ai un arrêté préfectoral. Mes filles se retrouvent à l'hôpital et moi aussi. On a de l'asthme. J'ai mon appartement, il est rempli d'eau. Et la mairie ne fait rien, la société où je suis ne fait rien, on ne sait plus quoi faire. Et la loi d'Allo non plus m'a rien proposé.
Ben voilà, c'est toute la difficulté, et vous êtes l'illustration même de cette loi. C'est-à-dire que la loi en elle-même est une bonne loi, c'était une bonne intention de nos politiques, mais c'est vrai que cette loi d'Allo qui considère que vous êtes prioritaire. Et en principe, on se dit, bah, si je suis prioritaire à charge pour les organismes préfectoraux ou municipaux de faire en sorte de me trouver quelque chose, eh ben très souvent, on a une belle décision qu'on peut accrocher, qu'on peut lire de temps en temps, mais qui concrètement n'aboutit à rien. Et la difficulté, c'est que pour entre guillemets forcer la main à l'administration, les tribunaux, ils le font systématiquement, ils condamnent. L'administration a une somme d'argent. Alors d'abord, on les condamne à essayer de vous trouver quelque chose, mais on les condamne aussi à une somme d'argent. Et cette somme d'argent, en règle générale, ça papillonne, on va dire, entre 500 et 800 euros par mois. Donc c'est pas négligeable. Sauf que cette somme d'argent, elle ne revient pas à l'intéressé, au client. Donc elle ne va pas vous revenir à vous. Elle est versée à un organisme qui est, en principe, ici, pour financer la construction de logements. Donc c'est un peu l'État qui discute avec l'État, et c'est l'État qui indemnise l'État. Donc c'est un peu fou comme situation. Ouais. Mais malheureusement, Serge, dans ce que vous venez de dire, vous avez fait déjà le nécessaire. Vous voyez, je peux même pas vous dire, écoutez, il y a peut-être telle porte à pousser, et puis on va essayer de... Vous avez fait le nécessaire, vous avez déjà cette fameuse décision, donc vous êtes aux yeux de l'administration considérée comme prioritaire. Après, oui, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que on a un paquet de personnes qui se retrouvent avec des belles décisions, et puis je ne veux pas dire que tout le monde s'en fout, mais ça y ressemble un peu quand on est dans votre situation. Et si vous me dites qu'il y a eu un arrêté d'insalubrité, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ce logement donc ne peut pas être habité ou habitable. Bon, j'imagine que vous avez arrêté de régler par définition le loyer quand même.
Oui, depuis d'avril.
Ouais, on est d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce type d'arrêté, par définition, on arrête de payer le loyer. Pour autant, c'est pas ce qui va permettre de satisfaire les uns et les autres. Mais malheureusement, Latifa, j'aimerais vous dire autre chose, mais dans ce que vous venez d'évoquer, vous avez tout fait. Ouais, c'est-à-dire que je peux même pas vous conseiller autrement. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Vous avez une belle décision. Après, c'est le bon vouloir. J'aime pas le terme, mais c'est surtout ça, le bon vouloir du ou des administrations. Mais il y aurait rien d'autre à faire en dehors de ce que vous avez déjà fait et accompli.
D'accord.
Vous voyez, c'est plus une politique de la ville qu'une question de droit. Le droit est là. Les tribunaux sont là. Les tribunaux, en plus, je peux vous assurer que dans le cadre de la loi d'Allo, les magistrats rendent systématiquement des condamnations. Mais voilà, une fois qu'on a ça, et c'est trompeur, puisque la personne, quand elle a ce jugement, elle se dit, bon, ben voilà, la première étape est franchie, c'était le plus dur et ça va aller vite. Non, en fait, cette première étape, c'est vraiment le début du début, et les grosses difficultés commencent après. Donc c'est, oui, c'est un peu trompeur, hein, cette loi Dalloz.
Oui.
Mais voilà, mais malheureusement Latifa, je sais pas quoi vous dire juridiquement parlant. Voilà, tout a été fait. Alors c'est facile de dire, écoutez, patientez encore, puisque quand on est dans votre situation, chaque jour qui passe est un jour terrible. Mais ouais, juridiquement parlant, Latifa, voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire.
D'accord. Et voilà, j'ai les experts qui sont passés. Excusez-moi, je vais vous reposer une question. Les experts, ils sont passés de mon assurance. Parce que, franchement, je suis en train d'attaquer la loi Dalloz et Inly, le bailleur.
Alors,
il ne fait rien.
Voilà, c'est-à-dire que là, après, à partir du moment où. Là, c'est un bailleur. C'est pas un bailleur privé, si?
Mais en fait, on l'a eu avec 1% patronal, mais maintenant, on a vu que dans leur logo, c'était un peu du social. Mais on ne comprend pas.
Alors après, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'en dehors d'obliger les uns et les autres à vous reloger, oui, vous pouvez aussi demander des dommages et intérêts si voilà, si cette situation d'insalubrité, comme dirait l'autre, est due à une dégradation des conditions de l'appartement. Donc voilà, alors vous pouvez être indemnisé et obtenir des dommages et intérêts. Pour autant. Pour autant, cette demande de dommages et intérêts va pas forcément accélérer la procédure pour vous donner un nouveau logement. Ouais, le truc, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des sociétés, vous avez des bailleurs sociaux qui préfèrent payer, sans faire l'effort d'essayer de trouver quelque chose. Et c'est ça qui est terrible. Voilà, la sanction financière ne les dérange pas, et en particulier les bailleurs sociaux, puisque qu'on le veuille ou non, c'est de l'argent public tout ça. Donc, en gros, ils s'en foutent un peu. Mais il n'y a pas de loi, de texte qui permettrait, j'allais presque dire, de leur forcer la main pour vous donner un logement. Vous voyez, la difficulté, c'est ça. Leur réponse sera toujours de dire, bah oui, on est condamné, on aimerait bien, mais on peut pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements. Enfin voilà, c'est un discours qu'on entend depuis 40 ans dans ce pays. Donc, juridiquement, vous avez fait ce qu'il y avait à faire.
Ok. Merci beaucoup.
Je suis navré, Latifa. J'aurais aimé, voilà, vous apporter une réponse plus sympathique, mais ça correspond tristement à la réalité, ce que je suis en train de vous dire.
Ouais, c'est vraiment la réalité, parce que là, je demande dommage et intérêt, mais mon conseiller juridique m'a dit oui, mais il faut être dans la limite du raisonnable. J'ai dit, mais ils n'ont pas été raisonnables quand on a été plusieurs fois à l'hôpital avec mes filles.
Non, enfin, voilà, c'est-à-dire que le alors raisonnable, comme dire, d'abord, je sais pas ce que ça veut dire. Il faut savoir qu'il y a pas un barème particulier. C'est en fonction, comme on dit, de votre préjudice. Il est certain que si c'est et par définition, puisqu'il y a un arrêté d'insalubrité, donc si c'est invivable, s'il y a des conséquences sur votre santé, la santé des enfants, oui, vous êtes légitimement en droit de solliciter des dommages et intérêts. Alors. Après, comme dit Haute, évidemment, faut pas demander n'importe quoi, mais il y a aucune raison que vous demandiez n'importe quoi. Il faut que ce soit, voilà, proportionné. Mais faut pas hésiter. Parfois, ça peut aussi les inciter à sortir votre dossier et à dire, bon, on va peut-être essayer de lui trouver quelque chose.
D'accord. Ok.
Voilà, Latifa.
Je vous remercie. Hein.
Merci à vous pour votre appel. Bon courage, Latifa.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Alors 01 53 48 3000, on a encore un peu de temps, Maître Serran, on va écouter Idir, on a 5 minutes avec Idir. Idir, bienvenue.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour Idir.
Je voudrais poser deux petites questions à Maître Serran, s'il y a moyen.
Bah, commencez par la première déjà, allez-y Idir.
D'accord, alors là je suis étudiant étranger, je suis en master à l'université, et c'est à propos de mon titre de séjour. Ben, j'ai déposé, ça fait 6 mois ou plus, j'ai pas de réponse. À chaque fois, je les appelle, ils me raccrochent au nez. Je sais pas pourquoi. Mais là, ils disent que la procédure, je dois la faire en ligne, et en ligne, je ne réponds pas.
Oui, alors c'est ça qui est un peu fou, vous avez raison, c'est-à-dire qu'auparavant, alors il fallait se déplacer et autres, et c'était galère. Ensuite, il y a eu des procédures en ligne. Et avec ces histoires de Covid, donc ça s'est multiplié. Mais vous avez raison, la difficulté, c'est que si vous y allez physiquement parlant, on vous dira c'est pas possible, on peut pas vous recevoir, faites ça en ligne. Et quand vous essayez de faire ça en ligne, vous n'avez quasiment jamais de rendez-vous de dispo. Mais là, on parle du premier titre ou c'est pour un renouvellement ?
Non, c'est pas un renouvellement. Et j'ai déposé en ligne. Et
ouais.
Je dois avoir une autre travail. Donc là, pour avoir la présentation, pour avoir un titre de séjour. Et donc là, ça fait 6 mois, je peux ni travailler, ni avoir de l'encadrement.
Ouais.
Le temps. Franchement, c'est la galère.
Alors, vous savez, toutes les conséquences négatives de ça, c'est aussi dû à la mauvaise foi. Alors, je ne veux même pas parler de mauvaise foi de la part de l'administration, mais de l'entourage, parce que vous me dites, sans ça, je ne peux rien faire. Normalement, à partir du moment où vous justifiez que vous avez quand même fait la demande, même si vous n'avez pas eu de réponse, même si un rendez-vous n'a pas été fixé, même si on vous a pas remis le titre, en principe, le simple fait de justifier que la demande a été formalisée devrait quand même vous ouvrir les portes et pas vous fermer tous les droits qui seraient les vôtres. C'est-à-dire, vous vous baladez quand même avec le petit papier comme quoi, enfin, que vous avez imprimé, comme quoi vous avez fait le nécessaire, ça vous l'avez toujours sur vous.
Oui, mais...
ils sont pas sensibles à ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, tant qu'il n'y a pas le titre, on fait rien.
Oui, exactement. Et sur le papier, c'est indiqué en quoi ce papier vaut rien.
Alors, mais c'est ça qui est un peu fou. C'est-à-dire que c'est le seul document officiellement qui dit que monsieur, madame a fait le nécessaire. Maintenant, moi, que l'administration, que la préfecture ne réponde pas, on va dire, dans un délai raisonnable, à la limite, je peux l'entendre et le comprendre. Voilà, il y a beaucoup de dossiers, c'était un peu le chaos ces derniers temps. Mais en principe, à partir du moment où on peut justifier que l'intéressé a fait, lui, le nécessaire de son côté, ça devrait être suffisant. Mais vous avez raison. C'est-à-dire que sur le document lui-même, on affiche, alors pas en rouge, en gros caractère, que c'est un document qui a priori ne vaudrait rien, mais c'est ça qui est un peu terrible. C'est-à-dire que ça devrait être en soi suffisant pour dire la demande a bien été formalisée par monsieur, et puis voilà, monsieur n'y est pour rien, c'est nous, administration, qui allons lui répondre. Mais vous voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans votre situation, et puis je vous dis, cette histoire de maintenant tout faire en ligne. Et j'ai été l'un des premiers à dire, bah, c'est quand même une bonne chose, ça évite les queues interminables. Eh ben, on se rend compte que l'administration, quand elle est de mauvaise foi, elle est, quand les gens faisaient la queue, elle est aussi quand on nous demande de prendre des rendez-vous exclusivement via Internet. Donc, alors après, il y a aussi la possibilité, si vous justifiez que vous avez essayé de vous connecter à 2, 3, 4 reprises et qu'il n'y a pas de réponse de la part de l'administration, vous pouvez aussi engager une procédure devant le tribunal administratif. C'est un référé. C'est pour obliger l'administration, comme dirait, à vous recevoir ou à faire le nécessaire. Donc ça, ce serait techniquement possible. Il y a des tribunaux qui ont déjà rendu des décisions dans ce sens-là.
Ok, donc...
Il faudrait faire des captures d'écran et puis à partir du moment où vous avez que des réponses négatives, saisir en référé le tribunal administratif de votre lieu de domicile et à partir de là, donc vous allez avoir une audience. Alors c'est en référé, donc c'est assez rapide. Alors tout est relatif, mais c'est quand même rapide et c'est avec cette décision que vous pourrez avoir que la préfecture peut-être commencer à bouger.
Ouais. Voilà. Et pour engager tout ça, donc il faut auprès d'un...
L'avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez aller sur place et remplir un petit formulaire si vous le désirez.
Alors voilà, là, il dit que l'émission se termine, hein, mais vous avez la possibilité, bien sûr, de poursuivre la conversation avec Maître Serran. Maître Serran, rappelez s'il vous plaît votre numéro de téléphone.
Ouais, vous pouvez m'appeler après si vous voulez, 06 62 58 59 64 06 62. 58, 59, 64.
Bien, Maître Serran, je vous laisse une semaine pour travailler vos assouplissements. Hein, ça, et nous tiendrons au courant et informer tous nos auditeurs,
c'est normal.
Hein, de l'avance de votre entraînement et de vos performances.
C'est gentil.
Une petite vidéo dans un instant. Il est toujours très entraîné et très souple. C'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera avec vous.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.